Bonjour à tous, voilà. Si vous le voulez bien, nous allons prier avant de partager la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci et c'est tout ce que nous pouvons te dire. Nous n'avons rien à apporter, rien à t'offrir, nous ne pouvons que te dire merci pour ta grâce dans nos vies, ta grâce dans cette Église et te dire merci Seigneur parce que tu as toujours une parole pour nous. Seigneur, c'est ta parole qui nous fait vivre, c'est ta parole dont nous avons besoin, c'est ce pain dont nous avons besoin. Seigneur, ce que nous voulons, c'est entendre la voix de Jésus-Christ. Ce que nous voulons, c'est entendre la voix de l'Esprit. Parle à nos cœurs, Seigneur, et aide-nous à marcher dans ta grâce, à marcher dans tes voies et à accomplir ta volonté. Merci, Père, pour ta présence. Que ton esprit nous dirige, nous conduit dans ces instants et que nous soyons réellement remplis de ta parole ce matin. Que cette parole puisse être une force et une puissance pour nous en cette semaine qui commence et que nous puissions la garder. Seigneur, qu'elle s'installe dans nos cœurs, qu'elle prenne place dans nos cœurs et qu'elle soit utile à chacun d'entre nous. Merci Père pour ton amour, pour tes grâces qui sont sans fin. Amen.
Amen.
Voilà, c'est la rentrée. J'espère qu'elle s'est bien passée pour tout le monde. Les 2 mois de vacances sont passés à la vitesse de l'éclair. C'est à se demander s'il n'y a pas un type qui a tourné les boutons un peu trop vite, parce que on était le 30 juin, on est déjà le 1er juillet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai été dans le coma pendant 2 mois, mais bon, en tout cas, je suis surpris par la vitesse des choses. Mais à côté de ça, la rentrée, c'est ça la vraie vie. Hein? Donc, les vacances, c'est pas la vraie vie. Donc, la vraie vie, c'est d'amener les enfants à l'école, c'est d'aller au travail, c'est ça la vraie vie. Donc, merci Seigneur de nous avoir fait retourner dans la vraie vie. Les illusions sont finies. Maintenant, on est dans le vrai. Voilà, nous allons lire 3 textes ce matin dans la parole de Dieu. Et nous saluons en effet le frère de Francie et son épouse. On a beaucoup entendu parler de vous, mais maintenant notre œil vous a vu. Voilà. Ésaïe chapitre 5, pour commencer, la prophétie d'Ésaïe chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5, nous allons lire les versets 1 à 7. Ésaïe 5, versets 1 à 7, voici ce qui est écrit. « Je veux chanter pour mon ami le chant de mon ami au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il encercla le sol, en enleva les pierres et il y mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne et il y creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais elle n'a produit que de mauvais raisins. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez les juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Pourquoi alors que j'attendais un beau et bon raisin, n'en a-t-elle produit que du mauvais? Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche. Nul ne la taillera. Nul ne la sarclera. Les ronces, les épines y croîtront librement et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. Or, c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait d'eux la droiture, et ce n'est qu'injustice. Il attendait d'eux la justice, et ce sont des cris de détresse. Amen. Le 2e texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, versets 1 à 16. Je suis le vrai plant de vigne, et mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. Et le dernier texte dans Colossiens chapitre 2, les versets 6 et 7. Colossiens 2, versets 6 et 7. Épître aux Colossiens, versets 6 et 7, il est écrit « Ainsi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. » Tout le monde aura bien compris, aura bien remarqué qu'il y a une thématique qui lie les trois textes que nous venons de lire. Ce ne sont pas trois textes complètement au hasard. Les trois textes que nous venons de lire utilisent l'image de la vigne. L'image de la vigne, c'est une image, nous savons tous ici, qui est très très utilisée dans la Bible. Dans la Bible, on nous parle très souvent de la vigne parce que c'est une image facile à appréhender, c'était une image facile pour eux, puisque c'était des cultivateurs, des gens qui travaillaient dans les vignes, qui connaissaient bien ce genre de paysage. Alors effectivement, des vignes, on n'en voit pas à Jumet-Gohissart, on n'en voit pas à Roux, mais des vignes, quand on va dans le sud de la France, etc., etc., on en voit. Effectivement, quelqu'un qui voit souvent des vignes, quand on lui parle d'une vigne, eh bien, il se représente une réalité et il peut comprendre ce qu'on veut dire. Et donc, dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et ensuite nous, puisque nous sommes dans une seule continuité, nous sommes souvent comparés à une vigne. Une vigne, un endroit où tout un ensemble de plants produisent du raisin qu'on va utiliser pour faire du vin, pour toutes sortes de choses. Dans la vigne, tout est bon. On peut prendre la sève, on peut prendre les branches, on peut prendre le raisin, on peut faire plein de choses avec une vigne. Et donc, c'est une image qui est très forte dans la Bible. Et c'est une image, visiblement, à laquelle Dieu tient parce qu'il l'utilise à plusieurs reprises. Il y a des images dans la Bible qui sont prises une fois et puis plus jamais. Alors que cette image-là, elle est particulière parce que on la trouve dans Ésaïe, on la trouve dans les évangiles et on la trouve encore dans les épîtres. Parce que dans Colossiens, on vient de lire, si vous lisez bien les mots utilisés, on vous dit « enracinez-vous en lui, construisez votre vie sur lui ». Donc il y a toujours cette idée de la vigne, de la plante qui reste, et même l'idée de l'arbre est très souvent présentée dans la Bible. Et dans le texte d'Ésaïe chapitre 5, on nous parle donc d'un vigneron qui prend soin de sa vigne. C'est un vigneron qui s'investit pour sa vigne. Ce n'est pas un vigneron paresseux. Ce n'est pas un vigneron qui pense à autre chose, qui regarde les nuages ou qui boit tout le vin pendant que la journée passe. C'est un vigneron qui s'investit, qui travaille pour sa vigne. Il sarcle le sol, c'est-à-dire qu'il enlève les mauvaises herbes qu'il y a partout. Il retient les mauvaises herbes. Il ôte les pierres qui pourraient empêcher les pieds de vigne de grandir. Il choisit, nous dit la Bible, des plants de qualité. Ça veut dire que les plants qu'il met, ce sont des plants auxquels il a réfléchi, il a pensé, il a été les acheter dans un magasin spécialisé, il s'est investi pour choisir les bons plants. Il bâtit une tour de garde, un endroit d'où on pourra garder la vigne pour éviter que des renards ou autres viennent la dévaster. Il creuse un pressoir pour pouvoir presser les raisins et extraire le jus. Il l'arrose. Vous avez parfois des plantes que vous n'arrosez pas, hein, ou alors des poissons rouges qu'on ne nourrit pas. Mais lui, non. Il travaille, il arrose sa vigne, il travaille pour que tout soit bien propre, un peu comme Jean-Marie. Jean-Marie, quand il travaille dans les jardins, il fait tout bien propre. Voilà, ça c'est bien, il coupe, et tout est bien propre, et c'est parfait. Eh bien, c'est la même chose, c'est un vigneron qui travaille, il est tout investi pour ce qu'il fait. Il taille la vigne aussi, donc il coupe les morceaux. Il bâtit une clôture autour de la vigne pour empêcher les gens d'y entrer. Et il ôte les pierres et les ronces. Donc, on a là un bosseur, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a une activité. Il est vigneron et il se consacre à son métier. Il y a des gens qui ont des métiers et puis qui ne font jamais rien à l'heure, qui oublient tout. Hein, je ne savais pas, j'avais oublié. Hein, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. C'est pas ce vigneron-là. C'est un vigneron concentré, qui s'investit, qui fait un travail particulier, qui met l'argent qu'il faut, qui met l'énergie qu'il faut pour sa vigne. Et ensuite, le texte nous dit clairement que cette vigne en question, c'est le peuple d'Israël, c'est nous, et que le vigneron, c'est Dieu. Donc, quelque part, il est absolument évident que ces textes nous montrent que le vigneron, Dieu, prend soin de nous. Le vigneron, Dieu, fait tout ce qui est nécessaire pour nous. Il s'investit. Ce n'est pas un Dieu qui nous oublie, c'est pas un Dieu qui part en vacances, heureusement. C'est pas un Dieu qui somnole, qui ne sait plus quoi, qui perd ses affaires. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est un vigneron qui prend soin de nous, qui s'investit pour son peuple. Il s'investit pour son église. Il s'investit, il fait un travail pour que les choses soient bien. Et bien plus, il a fait, une fois pour toutes, un travail. Il a fait un travail complet en notre faveur. En Jésus-Christ, il nous a rencontrés une fois pour toutes. En Jésus-Christ, il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Le texte de Colossiens chapitre 2, un peu plus loin, nous dit « Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » Nous avons tout pleinement en Jésus. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Nous n'avons pas besoin qu'on rajoute quelque chose à l'œuvre de Jésus. Nous n'avons pas besoin qu'on fasse un travail en plus, qu'on appelle des gens. Jésus, en Jésus, nous avons la parfaite relation avec Dieu. En Jésus, nous avons tout ce qui est nécessaire pour notre salut. En Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. En Jésus, nous avons le fait d'être sortis de l'esclavage. En Jésus, nous avons la paix. Et donc, il n'y a rien à ajouter au sacrifice et à l'œuvre de Jésus. On peut dire tout est accompli. Tout est accompli, c'est ce qu'il a dit en mourant sur la croix. Tout est fait. Le vigneron a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'y a plus rien qu'il puisse ajouter aujourd'hui. Il nous a même donné son esprit pour nous conduire dans la vérité. Il nous a donné sa parole pour nous instruire. C'est ce qu'on a chanté dans le chant « Chantons sans cesse ». Sa grâce nous instruit, son esprit nous machin. Voilà, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et ça, évidemment, ça nous appelle à la louange, à louer la gloire de sa grâce et à dire merci Seigneur parce que pour nous, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Nous sommes au bénéfice d'un salut complet. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a pas un petit point, il n'y a pas un petit machin. Et même nos œuvres ne rajoutent rien. Même ce que nous faisons, même ce que nous essayons de bâtir ou quoi, nos ministères n'ajoutent rien à l'œuvre de Jésus. Nous sommes simplement assis dans un siège et nous bénéficions de l'amour de Jésus. Et 1 Corinthiens, on en a déjà souvent parlé, nous dit que Christ, 1 Corinthiens 1, verset 30, nous dit que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Sagesse, justice, sanctification, rédemption, tout ce qu'il faut. Sagesse. Jésus est la réponse au problème de l'humanité. Il est la sagesse suprême. C'est auprès de lui qu'on peut trouver la solution, qu'on peut demander la sagesse. Justice. En Jésus, nous sommes justifiés, considérés comme étant justes devant Dieu. Nous pouvons nous approcher de lui. Nous pouvons prier. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint. En Jésus, nous avons la sanctification, nous sommes mis à part pour Dieu. En Jésus, nous sommes délivrés du péché. De Pierre 1, verset 3, nous dit qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la piété. Tout ce qui est nécessaire à la piété. Le vigneron a fait son travail, il nous a donné tous les outils dont nous avons besoin, nous, chacun d'entre nous, ici, dans cette salle, tout ce dont nous avons besoin, pour vivre notre foi, pour vivre la piété, pour entrer en relation avec Dieu et pour faire ce à quoi Dieu nous appelle. Tout est absolument accompli. Le vigneron a accompli son travail jusqu'au bout. Et Éphésiens 1 nous dit, je prie, c'est Paul qui dit, afin que vous puissiez comprendre quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc non seulement il a tout fait, mais en plus, il continue à nous faire bénéficier de sa puissance, de sa gloire. Sa puissance, elle est là, elle est pour nous. Nous ne sommes pas sans rien, nous ne sommes pas orphelins. La puissance de Dieu est là, elle attend nos prières, elle attend notre supplication. Il est là, il est le Dieu agissant, le Dieu présent. Le vigneron a fait absolument tout ce qu'il fallait. Il nous a adoptés en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux élevés. Il nous a destinés à la gloire, il nous a instruits dans la vérité. Il nous conduit par l'Esprit. Tout ce qu'il fallait pour ta vie a été fait. Tout ce qu'il fallait pour ta foi a été fait. Tout ce qui était nécessaire pour l'Église, pour que nous puissions faire notre vocation, a été fait. C'est pas fantastique, ça? De se dire que nous n'avons pas sur nos épaules une responsabilité écrasante. De nous dire, oh là là, tout ce qu'il faut encore faire, faut que j'aille mourir sur la croix, ou alors il faut que je sacrifie un de mes enfants. Il n'y a plus besoin, tout a été fait. Même pas besoin d'œuvres en plus, même pas besoin de tenue en plus, même pas besoin d'un beau bâtiment. Tout a été fait pour nous. Dieu s'est investi au plus haut point pour notre salut, mais aussi pour notre vie. La vie dans le Seigneur ne doit donc pas être quelque chose pour nous de repoussant, d'effrayant. Nous ne devons pas nous sentir comme des gens écrasés par un fardeau qu'ils ne peuvent pas porter. C'est trop dur, c'est trop compliqué. Nous ne devons pas nous sentir comme des gens qui ont toute une liste de lois à obéir, ça n'arrête plus, on tourne le bouquin, mais il y a des lois partout, on n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué. Nous ne devrions pas nous sentir comme ça. On ne nous demande pas d'être des héros. On nous demande pas de faire des choses extraordinaires, d'être des gens fantastiques qui soulèvent les montagnes et qui soulèvent des voitures et qui claquent des doigts pour remplacer des machines à laver. Non, pas besoin d'être des héros. Soyez tranquille, soyez tranquille dans votre siège. Mettez-vous à l'aise. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Vous êtes crispés là. Allez, asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Pas besoin d'être des héros. C'est pas fantastique ça. Il n'y a pas plein de lois et machin, plein de règles. Oh, on va jamais s'en sortir. Comment est-ce qu'on va faire? On n'a pas besoin de connaître toute la Bible par cœur. Personne ne vous le demande. Pas besoin de connaître la Bible par cœur. On a des papiers, pas besoin de connaître tout par cœur. Il y a des gens, ouais, je vais connaître toute la Bible par cœur. Ça sert à quoi? À rien, elle est là. Pas besoin de la connaître par cœur. Pas besoin de venir tous les jours à l'église. Vous n'êtes pas obligé de venir tous les matins prier pendant 3 heures et le soir après le travail de revenir 3 heures. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de gagner tous les habitants de la ville à Jésus. Il n'y a pas besoin de créer sans cesse des nouvelles activités, des nouveaux trucs, des nouveaux bâtiments, des nouvelles œuvres pour Jésus. Il n'y a pas besoin. On ne nous demande pas non plus d'accueillir tous les pauvres de la région, tous les malades de la région dans notre maison. Pas besoin. On ne nous demande pas d'être des gens qui font des choses complètement hors du commun et qui passent toute leur vie à essayer d'atteindre des objectifs trop compliqués pour eux, trop durs. On ne nous demande pas d'être des gens qui se fatiguent sans cesse pour ne jamais rien atteindre. On ne nous demande pas d'être des gens qui tournent en rond pour essayer d'atteindre quelque chose de trop compliqué. On ne nous demande pas de baiser les pieds des anciens. Pas besoin de baiser les pieds de Gino. Pas besoin de baiser les pieds de Benoît. Pas besoin de baiser les pieds de Jean-Pierre. Ni baiser les pieds de Rose. Ni ceux de Patrick. Pas besoin. Ni ceux d'Hélène. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et baiser les pieds de Gino, vous pouvez bien. Parce que Myriam les nettoie tous les jours. Tous les soirs, Myriam nettoie les pieds de Gino. Elle dit, Gi, viens un peu. Oui, allez, mets tes pieds. Et elle nettoie ses pieds. Et alors, Benoît a voulu faire le même avec Ingrid. Mais Ingrid a dit, tu m'as déjà bien regardé. Moi, te laver les pieds, j'avais de la vie. Donc voilà. Mais Gino pouvait aller, c'est propre, parce que Myriam fait son travail. Mais il n'y a pas besoin de tout ça. Pas besoin de grandes constructions. Mettons-nous à l'aise. Soyons tranquilles. Soyons en paix. Vivons une relation tranquille avec Dieu. Soyons heureux d'être simplement enfants de Dieu, d'être adoptés par Dieu. Ne nous sentons pas toujours agressés par des milliards de commandements, par un milliard de choses qu'on nous demande, par des trucs trop compliqués. Soyons tranquilles, soyons à l'aise. La seule chose qui nous est demandée, c'est de demeurer en Jésus. La seule chose qui dépend de nous, c'est de demeurer attaché à Jésus, de maintenir notre union avec Jésus. Ça, c'est essentiel. Pas besoin d'être stressé par tout un ensemble de choses qui sont vraiment compliquées. Ce que Dieu nous demande dans ces textes, ce que Dieu nous demande aujourd'hui, ce que Dieu veut nous dire, c'est que nous devons être des gens qui demeurent, qui restent attachés, qui maintiennent leur union avec Jésus. C'est la seule chose qu'on te demande. C'est la seule chose que Dieu te demande en réalité. Il n'y a pas 40 000 commandements écrits sur la feuille. Il y en a un. Demeure attaché au cèpe. Demeure attaché à Jésus. Demeure en union avec Jésus. Et toutes les choses vont découler de là. Nous ne devons pas mettre la charrue devant les bœufs. Demeurer, c'est quoi ? C'est rester au même endroit pendant un long moment. Demeurer, rester à un même endroit. Rester fixe, demeurer. Je ne me déplace pas, je ne vais pas ailleurs, je reste là, je suis au même endroit. Demeurer, c'est persister dans un certain état ou dans un certain lieu. Persister, tenir bon, rester au même endroit. Demeurer, c'est établir sa résidence quelque part. Rester à un endroit. D'ailleurs, on dit « entrer dans mon humble demeure », on dit « ici demeure », on dit « nous allons l'accompagner vers sa dernière demeure ». Donc, la demeure, c'est vraiment le symbole du lieu où je reste. Et d'ailleurs, même parfois, quand on parle, on dit « où est-ce que tu restes ?» pour demander à quelqu'un où est-ce qu'il habite. Pour dire « où est-ce que tu habites ?» Quel est l'endroit où tu demeures ? Quel est l'endroit où tu restes ? Quel est l'endroit qui est fixe ? La plupart d'entre vous ici, vous avez acheté votre maison. Ben, toute votre vie tourne autour de l'endroit où se situe votre maison. Si vous cherchez un travail, vous allez chercher un travail tout près de chez vous parce que vous demeurez là, c'est votre maison, vous n'en avez pas une autre. Vous l'avez acheté. Et donc, toute votre vie doit être autour de cette maison qui est votre lieu où vous restez. C'est le lieu où votre vie s'établit. Et parfois même, les parents se transmettent les maisons de parents à enfants. Donc les parents construisent leur maison, ils vivent dedans jusqu'à leur mort, et puis ils disent aux enfants, ben viens habiter dans la maison, ils lèguent la maison, et finalement la maison devient bien plus que la maison d'une personne, la maison d'une lignée, d'une famille. Donc la maison, la demeure, c'est le lieu où l'on reste, et il n'est pas question, pour une raison ou une autre, de commencer à se déplacer tous les quatre matins. Quand on a acheté, on demeure à un endroit. Demeurer, c'est un appel que Jésus nous donne à être stable. À être stable. Vous savez que les moines font un vœu de stabilité. Par exemple, les moines d'Orval, par exemple, ils font un... Ah oui, voilà. Ça, je le savais. J'aurais pas dû donner cet exemple-là. Non, les moines de Maretsu. Ah non, c'est encore pire. Bon, les moines d'Orval, par exemple, ils font un vœu de stabilité. Le vœu de stabilité veut dire qu'ils vont rester dans ce monastère-là toute leur vie. Donc c'est pas moine, c'est pas infirmière volante, hein. Donc c'est pas je sois dans un service et puis c'est ils restent là toute leur vie, c'est un vœu de stabilité. Jésus nous appelle à être stable. Demeurer, à rester. C'est un appel à la persévérance. C'est un appel à la proximité avec Jésus. Lorsque les disciples ont rencontré Jésus, ils lui ont dit « Où habites-tu ?» Et ensuite, ils l'ont suivi. Ils passaient leur journée ensemble. Ils marchaient avec Jésus. Ils dormaient avec lui. Ils restaient dans sa maison. Ils demeuraient à côté de Jésus. Ils demeuraient dans la présence de Jésus. Ils demeuraient à l'écoute de Jésus. Ils demeuraient dans cette communion intime avec Jésus. Et c'est aussi ce à quoi Dieu nous appelle. C'est à être des gens qui demeurent auprès de Jésus, qui persévèrent dans les choses de Jésus, qui sont attachés, fermement attachés à Dieu. Et cet attachement qui est un attachement stable, un attachement réel, pas qui dépend des jours, pas qui dépend des circonstances, un attachement réel, un attachement dû, c'est la seule chose qu'on nous demande, c'est la seule chose qui est nécessaire pour notre vie. Demeurer, c'est vivre dans la dépendance envers Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons lui faire confiance. Nous devons nous abandonner à lui. Nous devons lui demander la direction avant de faire un choix. Très souvent, nous prions 10 secondes avant de faire un choix et puis on n'a même pas encore laissé le temps à Dieu de répondre, qu'on a déjà fait ce qu'on avait à faire. Et puis finalement, on mène sa vie comme si Dieu n'existe pas. Dépendons de lui, cherchons sa volonté. Avant d'agir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voudrais dans cette situation, Seigneur? Jésus, dans l'évangile de Jean, a rappelé à plusieurs reprises comment est-ce que il ne faisait que ce que son Père lui disait. Jésus dépendait de son Père. Quand Jésus a choisi ses apôtres, il a prié une nuit. C'était pas des choix. Alors oui, il y avait Judas dedans, mais il n'y avait pas le choix. Il fallait bien qu'il y en ait un qui soit celui qui va trahir. Mais donc, il y avait une dépendance envers Dieu. Il s'attachait, il restait, il demandait à Dieu, « Seigneur, que dois-je faire ?» Cet attachement profond. Et Jésus, quand les gens s'amusaient, parfois ils s'en allaient pour aller prier. Lui, il avait pas envie de rester dans toutes les noubas possibles et imaginables. Lui, il se mettait à l'écart pour demeurer avec Dieu, pour rester attaché à lui. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons compter sur sa provision. Dépendre de Dieu. Et c'est ça le péché originel. Le péché originel, c'est l'homme qui dit, « Seigneur, je ne veux plus dépendre de toi. » Le péché originel, c'est les hommes de Adam et Ève qui disent, « Seigneur, on ne veut plus respecter tes règles. On ne veut plus dépendre de ta volonté. On ne veut plus dépendre de tes principes. On veut être indépendant. » Et quelque part, c'est en nous, en tant qu'humains, nous avons envie d'être indépendants. Nous avons envie d'être tranquilles. Nous avons envie qu'on nous laisse. Ben non, je fais ce que je veux. Je fais mes programmes. Je fais mes plans. Dépendons de Dieu. Demeurer, c'est marcher comme Jésus a marché. Demeurer, c'est ne pas pratiquer le péché. Je peux pécher, mais je dois me repentir et continuer la marche, mais ne pas s'installer dans le péché. Demeurer, c'est rester attaché à l'enseignement de Jésus, rester attaché à ce que Jésus disait, rester attaché à ce qu'il a dit, profondément attaché aux évangiles, à la lecture, à la connaissance de ce que Jésus a dit, de son enseignement. Vous savez, parfois, nous connaissons toutes les pubs possibles et imaginables. Hein, les pubs qui passent à la télévision, on sait les terminer, on sait les chanter, on connaît tout. Quand on entend une pub, ah, ça c'est pour la mayonnaise, ah ouais, ça c'est pour la sauce tomate, et voilà. Mais quand on commence un verset, parfois on sait pas le terminer. Pourtant, c'est des versets qu'on entend tout le temps. Même les béatitudes, parfois vous demandez à quelqu'un, heureux ceux qui ont le cœur pur, car. Alors il vous regarde, attends, heureux ceux qui ont le cœur pur, qu'est-ce que ça veut dire encore? Pourtant, on en parle tout le temps des béatitudes. Parfois, on ne sait pas terminer Jean 3,16. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourtant, les pubs, on les connaît. Pourtant, les slogans, les dictons, on les connaît, hein, les dictons qu'on utilise. Connaissons la parole. Restons attachés à l'enseignement de Jésus. Demeurer, c'est aussi demeurer dans l'amour. Demeurer dans l'amour et l'amour de Jésus. Pas l'amour à notre sauce. Si on pouvait résumer l'enseignement de Jésus, on dirait amour et sainteté. Vivre dans l'amour, vivre dans la sainteté. Vivons dans l'amour, vivons dans la sainteté. Restons attachés à l'amour des frères, à l'amour du prochain. Restons attachés aux paroles de Jésus. Vous savez, les évangiles, il est possible de lire tous les évangiles en une semaine. Quand on lit un roman, on en lit des plus longs que ça. Les évangiles, c'est rien. Vous pouvez lire un évangile complet en une journée. Parfois, Ceux qui lisent beaucoup de romans, on sait lire un roman en une semaine. Mais les évangiles, on les lit un texte en février, un texte en mars, un texte... Et puis on ne sait plus ce que Jésus a dit, on ne sait plus ce qui est important, on n'est plus imprégné de sa pensée. Lisons les évangiles. Essayons de comprendre, de connaître, de mettre en pratique. Quand on dit méditer la parole de Dieu, ça veut dire, je lis le texte et je me demande qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie. Méditons, restons attachés à l'enseignement de Jésus. Demeurer, c'est demeurer avec les autres disciples, demeurer avec les frères et sœurs, demeurer dans la communion fraternelle, demeurer dans sa volonté, demeurer dans la volonté de Dieu aussi. Dieu a une volonté pour nous, il a une volonté pour nos vies. Demeurer dans sa volonté, demeurer dans sa présence. Demeurer, c'est persévérer, c'est tenir bon, c'est rester attaché, c'est ne pas s'éloigner, ne pas changer d'habitude, rester. Et c'est pas facile pour nous parce que nous aimons les expériences, nous aimons changer de lieu, nous aimons nous déplacer. À l'école, en primaire, on nous parlait tout le temps des nomades et des sédentaires. Les nomades et les sédentaires. Moi déjà, il m'a fallu du temps pour comprendre que les sédentaires, ça n'avait rien à voir avec le dentifrice. Donc, quand j'ai compris ça, je me dis, ah, c'est... Parce que sédentaire, pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça, alors? Les nomades et les sédentaires. Eh bien, justement, c'est un peu ça. Parfois, nous sommes un petit peu... nous avons envie de nous déplacer, alors que Dieu nous appelle à rester à un même endroit, rester avec lui, rester dans sa présence, rester à son écoute, au milieu de notre vie, bien sûr. Au milieu de notre vie, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être nécessairement au lieu physique de l'Église pour demeurer en Jésus. Je peux demeurer quand je travaille, je peux demeurer sur le chemin, je peux demeurer dans mes activités de la vie de tous les jours. Nous pouvons demeurer dans tellement de circonstances. Nous pouvons demeurer même au milieu du fracas de ce monde, au milieu de tout, des gens qui insultent Dieu. Nous pouvons demeurer en Jésus. Dans toutes les circonstances, absolument toutes, nous pouvons demeurer en Jésus. Et c'est ça la grâce du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit, c'est pas une mallette pour se dire, oh oui, mais il faut que je prenne ma mallette, comment est-ce que je vais faire? Je suis dans le bus ou à vélo, comment est-ce que je vais faire? Pas besoin. Il est en nous. Et donc, nous pouvons être en communion avec Dieu à n'importe quel endroit. Persévérons dans nos bonnes habitudes. Persévérons. Acte 2, verset 42 nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. Ils tenaient bon dans ces choses-là. On appelle ça les persévérances. Ils tenaient bon, ils restaient, ils s'accrochaient. Et vous voyez dans les actes quel impact avait l'Église. Comment est-ce que l'Église touchait les gens qui l'entouraient? Comment est-ce que l'Église était puissante? Et parfois, nous faisons un petit peu le deuil de cette Église puissante, n'est-ce pas? En disant, oh, mais ça c'était avant, ça c'est plus possible. Mais en réalité, ces persévérances-là, même dans nos Églises, ça manque. Même dans ces petites choses-là, on ne persévère plus. Même dans ces petites choses-là, rien que persévérer dans la parole, dans la prière, rien que ça, on ne persévère plus. Il suffit de voir les fréquentations des cultes dans les églises. Une fois c'est 5, une fois c'est 15, une fois c'est 40, une fois c'est 60, une fois c'est 2. On ne sait pas. Persévérer dans des petites choses, rien que ça. On ne te demande pas de soulever des montagnes, mais juste des toutes petites choses dans lesquelles tu restes accroché, tu ne changes pas des habitudes auxquelles on s'attache. Alors, le problème, c'est qu'on est fataliste en disant, ben oui, ben c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Si nous voulons demeurer en Jésus, nous devons avoir l'audace de dire ce que Jésus a dit, d'être accroché aux paroles de Jésus, à son enseignement. Il ne semble pas qu'avec Jésus, il y ait de la place pour être fataliste, dire, oh oui, mais c'est comme ça, c'est tant pis, c'est pas grave. Non, c'est grave. Restons attachés, tenons bon dans nos petites habitudes, tenons bon dans la fréquentation du culte, tenons bon dans la fréquentation des prières, tenons bon dans la lecture de la parole. Attachons-nous à ces petites choses-là, on ne nous demande que ça. C'est quand même fou. On nous aurait demandé d'aller mourir à la croix, on aurait dit oui. Et maintenant, on nous demande simplement de rester accroché à des petites habitudes, on ne veut pas. Si toute une église se disait, je vais demeurer dans ces choses-là, on n'aurait plus de problème. Et c'est possible. Vous voyez, c'est toujours le problème, c'est qu'on a un esprit, on a toujours l'impression que tout est impossible. On se dit, oui, mais toute l'église, c'est compliqué. Un peuple qui grandit, un peuple en bonne santé, c'est un peuple dans lequel on ne veut laisser personne sur le côté. Et si nous nous aimons à jumelles, ne laissons personne sur le côté. Ne laissons personne dire, oh, mais moi, j'y crois plus, moi, j'ai plus envie. Emmenons nos frères avec nous, dans nos persévérances, dans notre demeurance. Demeurer une vie spirituelle stable, ferme, continue. Ne nous reposons pas sur nos propres forces. Demeurer, c'est aussi dépendre. Les sarments, ils dépendent du cep. Les sarments, c'est la sève qui vient du cep qui fait grandir les sarments. Nous dépendons, nous avons besoin d'être ces sarments qui sont accrochés à Jésus et qui reçoivent de lui la vie. C'est pour ça qu'il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est par son esprit. Nous n'avons pas besoin de tout faire par nous-mêmes. Demandons son esprit, demandons la sève qui vient du cep. Et c'est cette sève-là qui va nous faire grandir. C'est pas le fait de se dire, allez, je vais le faire cette fois-ci. C'est pas par mes propres forces, c'est pas parce que j'ai envie, c'est juste parce que je laisse la sève monter. Nous n'avons pas besoin de nouvelles stratégies pour toucher le monde. Parfois, c'est ça. On devient un petit peu des gens de marketing. En se disant, ben oui, mais peut-être que si on va dans les rues et qu'on offre à tout le monde un croissant et machin et tout ça. Alors c'est bien, c'est des bonnes idées. Mais parfois on met la charrue devant les bœufs. On est toute une église où on ne demeure pas. On est toute une église où on ne prie pas. Et on s'imagine qu'en donnant des croissants aux gens, les gens vont se convertir parce qu'on leur donne des croissants. Dans la rue. Mais les gens, ils vont prendre votre croissant, ils vont le manger, ils vont s'en aller. On s'imagine qu'en faisant les plus grandes affiches... Alors, écoutez bien, c'est des choses nécessaires. En faisant des grandes affiches immenses, de 1000 mètres sur... On va mettre une grande affiche sur la place du ballon. On va mettre une grande flèche vers notre église, rue de Baillemont. Et puis, on va tous se mettre comme ça, en ligne, on va faire comme ça. Comme ça, les gens sauront que c'est par là qu'il faut aller. En se disant, ben oui, en faisant ça, les gens vont venir. Mais les gens ne viennent pas pour ça. Les gens n'en ont rien à faire. Les gens vivent leur vie. Les gens, qu'est-ce que c'est que tout ça pour eux? Ils vont cracher, ils vont rigoler. Ça ne tient pas tout ça. Il y a pas besoin de secret et d'invention. Demeurons dans les petites choses de la parole. Travaillons à ce que toute l'Église demeure dans cette petite chose-là. Et là, on verra. Et puis, on pourra faire des grandes affiches et se mettre tous comme ça. On pourra offrir des croissants à toute la ville. On pourra offrir des pics et tout ça. Mais si on met la charrue devant les bœufs et qu'on s'attend à des résultats, et malheureusement, c'est l'état de beaucoup d'églises. C'est pas grave. C'est pas grave si les gens ne viennent pas au culte. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave hein, si on ne lit pas la Bible. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave si on ne fait pas la prière. C'est pas grave. Mais on voudrait gagner les âmes. Mais l'esprit dont on nous parle dans Actes, qui est tombé, qui a fait agir, ils faisaient quoi? Ils étaient en train de prier, ils étaient attachés à Dieu. C'est cet attachement-là, c'est cette demeurance auprès de Dieu qui produit des fruits. Cinquièmement, on a bientôt fini, vous êtes fatigués. Et moi aussi, en passant, voilà. Donc, cinquièmement, ce qui est frappant dans les textes qu'on a lus, que ce soit le texte d'Ésaïe ou le texte de Jean chapitre 15, surtout le texte d'Ésaïe, ce qui est frappant, c'est que il est absolument clair que le vigneron, en faisant sa vigne, en investissant dans sa vigne, en travaillant pour sa vigne, son seul et unique objectif, c'est de gagner du fruit. Dans Ésaïe, c'est absolument clair que le vigneron, s'il fait ça, c'est pas parce qu'il a envie de dépenser de l'argent pour rien. Le vigneron, il fait ça parce qu'il veut du fruit. Le vigneron, il travaille parce qu'il veut que ça lui rapporte, c'est tout. Quand on plante des graines, c'est pas pour décorer, pas pour se donner bonne conscience. Le vigneron veut du fruit. Le vigneron veut produire. Il veut de la productivité. C'est ça qu'il veut. Il veut du fruit. Dieu veut du fruit. Avec nous, au travers de nous. Alors parfois on se dit, oui, mais bon, le fruit, est-ce que c'est si important que ça? Ah oui, c'est important. Ah oui, c'est important. Que nous portions du fruit, c'est ce qui est important, c'est ce que Dieu attend de nous. Produire du fruit, c'est ça la finalité de cet attachement à Jésus. Produire des fruits de sainteté, produire des fruits de justice, produire des fruits qui sont des âmes qu'on a gagnées, produire du fruit qui sont des fruits de l'esprit, produire des fruits qui sont la paix entre les hommes, produire du fruit, produire quelque chose, que de ma foi naisse quelque chose. C'est ça l'objectif de Dieu avec moi. Si je me dis, oh, mais bon, moi, le fruit, ça ne me dit rien. Jésus ne laisse aucune place, aucune, dans le texte, si vous l'avez bien lu, pour dire, il n'y a pas de fruit, mais je suis attaché au cep. Vous voyez? Je ne porte pas de fruit, mais je suis quand même attaché au cep. Il n'y a pas de place pour ça dans le texte. Celui d'Ésaïe, il dit clairement que il le fait pour produire du fruit et qu'il s'étonne de ce que, après tout le travail qu'il a fait, il n'en récolte pas. Donc, nous ne pouvons pas nous bercer d'illusions et dire, ben, moi, je ne porte pas de fruit, mais je suis attaché au cep. Moi, je ne porte pas de fruit ou un fruit dégoûtant, parce qu'on peut aussi porter un fruit, des raisins infects, sûrs, et que c'est tout ce qu'on veut. Moi, je ne porte pas de fruit, mais je suis attaché au cep, tout va bien. Nous ne pouvons pas dire ça, le texte ne nous le permet pas. Le texte dit, si je suis attaché au cep, je dois porter du bon fruit. C'est comme ça. Il n'y a pas moyen de discuter, de dire, oui, mais je ne pense pas, parce que, éventuellement, Jésus nous dit, celui qui est attaché à moi, il porte du fruit abondant et un fruit qui demeure. Ça, c'est la condition. Si nous voulons tous nous mentir les uns aux autres en disant « Ah, c'est pas grave, on porte pas de fruits, mais ça va quand même », nous ne pensons pas à Jésus. Posons-nous la question pour notre propre vie. Nous ne pouvons pas juger les autres, savoir les fruits des autres. Ça, c'est pas possible. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, de nous dire quels fruits je porte. Et si j'en porte, premièrement, est-ce que c'est un fruit abondant? Est-ce que c'est un raisin par mois pour faire mon vin? Et deuxièmement, est-ce que c'est un fruit qui demeure? Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça tient bon? Oui, nous avons besoin d'être attachés à Jésus, de demeurer en Jésus et de laisser sa vie faire de nous des personnes qui portent un fruit abondant. Et la finalité de tout ce texte-là, c'est qu'il dit, je vous dis ces choses afin que votre joie soit parfaite, premièrement. Pour que notre joie soit parfaite. Une joie parfaite. Vous voyez, parfois, on fait comme si la joie ne dépendait de rien, la joie dépend seulement de Dieu. Non, la joie dans le texte, c'est la joie aussi de porter du fruit. C'est la joie d'être agréable à Dieu. Et il dit, si vous êtes des gens qui portez du fruit, vous demanderez toutes choses en mon nom, et elles vous seront données. C'est pas le contraire. Si vous portez du fruit, vous demandez des choses en mon nom, et toutes ces choses-là vous seront accordées. Plus nous sommes attachés à Jésus, plus nous faisons les prières de Jésus. Nos prières ne sont plus nos prières, mais nous prions ce que Jésus veut. Et plus nous prions ce que Jésus veut, c'est ça qu'on appelle prier en mon nom, dans ma volonté. Et plus nous prions ce que Jésus veut, plus nous sommes alignés à ce que Dieu veut et Dieu ne peut que nous exaucer. Et très souvent, nous oublions dans les critères de la maturité spirituelle ce critère-là. Un critère de maturité spirituelle, c'est comment est-ce que mes prières sont exaucées? Est-ce que mes prières sont exaucées ou pas? Normalement, plus nous grandissons spirituellement, plus nous connaissons la volonté de Dieu. Et plus nous prions en fonction de la volonté de Dieu, vous comprenez? Nous nous alignons à ce que Dieu veut. Donc si je fais que demander des choses que Dieu veut, mais fatalement, il me les donne. Mais si je ne fais que demander des choses que Dieu ne veut pas, ben évidemment, je ne reçois rien. Donc plus nous grandissons spirituellement, plus nous devons connaître la volonté. Jésus disait, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus disait, Dieu m'exauce toujours. Parce que Jésus faisait les prières absolument parfaites. Donc nous ne sommes pas forcément capables. Mais l'Esprit, puisqu'il est écrit que nous ne savons pas prier, l'Esprit nous permet de prier des prières qui sont conformes à la volonté de Dieu. Nous voulons demeurer auprès de Jésus. Nous voulons écouter sa parole et ce qu'il dit dans l'Évangile, ce qu'il dit dans Ésaïe. Il y a un chant qui dit « Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin, conduis-moi dans tes sentiers. Je veux demeurer où tu es. » Ça devrait être notre prière. Je veux demeurer où tu es.
Et ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ça ne dépend pas d'un diplôme qu'on nous donnerait, ça dépend simplement de notre volonté de nous dire « je veux demeurer auprès de Jésus, je veux faire ce travail-là, de demeurer, de persévérer, de m'attacher. » Et David pourra dire « je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais demeurer toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce qu'on pourrait dire pour notre vie, ce que je voudrais, c'est habiter tout le temps avec l'Éternel, c'est être tout le temps près de Dieu, c'est tout le temps écouter Dieu. On est vite fatigué, nous. On a vite notre saut, comme on dit. Oh oui, on a lu la Bible 10 minutes, c'est bon maintenant, on passe à autre chose. Est-ce que nous sommes aussi de ces gens comme David qui peuvent dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je veux demeurer où tu es. Amen.